Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Et si nous rentrions dans les coulisses, ou plutôt les cuisines, du cyclisme professionnel? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un équilibre régimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vous raconte d'épisode en épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. J'ai décidé de faire une rediffusion d'un épisode que j'avais diffusé sur un autre podcast qui s'appelle Sport et Nutrition, qui est un podcast qui sort tous les 15 jours le vendredi. Et en fait, Sport et Nutrition, c'est un podcast qui s'intéresse à la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et en fait, dedans, on reçoit des athlètes, des sportifs de différents sports, hein, des aventuriers, des entraîneurs, des spécialistes de l'alimentation sportive. Voilà, tout un tas de profils, de parcours dans différents sports. Et j'ai reçu plusieurs fois par le passé des personnes qui sont dans le cyclisme. Et donc, j'avais reçu dans l'épisode que j'avais diffusé en décembre dernier, Valentin Lacroix. Et Valentin Lacroix, en fait, il a été cycliste semi-pro et il est maintenant nutritionniste et cuisinier. En fait, il a plusieurs casquettes. Il travaille avec l'INSEP, avec des fédérations, des équipes de France, des équipes cyclistes, etc. Et justement, en fait, on avait parlé de tout ce qui était la préparation, l'alimentation des professionnels du vélo, des cyclistes professionnels, et notamment, hein, parce que là on est en plein Tour de France, et ben justement de ce que des cyclistes professionnels pendant le Tour de France peuvent manger. Et vous allez voir qu'il y avait quelques surprises, parce que ce qui marche pour nous, hein, j'ai envie de dire comme un des mortels, ne marche pas tout à fait de la même manière pour des sportifs de ce niveau-là. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de rediffuser ce podcast, c'est pour déjà vous faire connaître Sport et Nutrition si vous ne le connaissez pas déjà, vous rappeler aussi cet épisode que j'ai trouvé vraiment très riche, sur lequel j'ai appris vraiment des choses, qui est très surprenant. Et c'est un épisode que j'avais beaucoup apprécié et qui, je pense, devrait beaucoup vous plaire, parce qu'en fait, on est dans le monde du vélo, voilà, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet épisode. Et puis sinon, si vous demandez où est mon petit, où j'en suis de mes... De mon avancée sur la préparation du Gravelman, sachez que cette semaine, j'ai fait 0 km de vélo et que la semaine dernière, j'en avais pas fait beaucoup non plus. Donc, on va dire que c'est une pause. Voilà, je vais faire une petite pause avant mon aventure en vélo. Je fais une petite pause, en fait, pour récupérer, pour me ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour préparer aussi un autre défi que j'ai à côté, etc. Et donc, pour l'instant, le vélo, voilà, il fait un petit peu la sieste. Il dort un petit peu, il est rangé. J'ai vidé les sacoches, etc. Et bientôt, je reviendrai. Voilà, mais en attendant, c'est vrai que j'adore cet épisode. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations, que c'était surprenant aussi par certains aspects et que ça colle bien à l'actualité du moment. Donc je vous repropose cet épisode complet et puis je vous mets le lien bien sûr dans les notes de l'épisode pour découvrir les autres épisodes de Sport et Nutrition. Vous allez voir, il y a des épisodes vraiment sur toutes les thématiques avec d'autres cyclistes d'ailleurs aussi, hein, et des sportifs de tous les sports. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Valentin Lacroix. Ancien cycliste semi-pro, il est maintenant nutritionniste et cuisinier. Il travaille avec l'INSEP, plusieurs fédérations, des équipes de France et aussi avec des équipes cyclistes. Et c'est le sujet du jour. Nous partons ensemble dans les coulisses et les cuisines des cyclistes professionnels et de leurs besoins très spécifiques. Car leurs dépenses caloriques sont telles que Valentin doit être très stratégique pour qu'il mange assez et dispose de la bonne énergie au bon moment. Et on parle vraiment de champions qui font 25 à 30 heures d'entraînement par semaine et qui enchaînent des milliers et des milliers de kilomètres, des fois tous les jours, comme sur les grands tours. Et vous allez voir que c'est assez surprenant car ces athlètes sont tellement entraînés qu'ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes filières énergétiques que nous, hein. Ils n'ont pas les graisses situées au même endroit par exemple, et que ça peut être un petit peu surprenant aussi sur leur alimentation, ce qu'ils font, car bon nombre de conseils que nous appliquons, nous, de notre côté, ne fonctionnent pas pour eux. C'est assez surprenant et vraiment très très intéressant. Allez, c'est parti. Bonjour Valentin.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Écoute, très bien.
Je suis enchanté de te recevoir parce que, alors, je vais le dire, comme ça sera clair. On va faire deux épisodes ensemble. On va les espacer un petit peu en diffusion, mais aujourd'hui, on fait le premier. Et aujourd'hui, on va parler d'un domaine que tu connais très bien, dans lequel moi, je suis... je m'y intéresse, je dois m'y mettre, mais je suis un peu plus novice. Hein. Si je dis qu'il y a une selle, un guidon, des pédales, normalement tout le monde saura de quoi on parle. Toi, c'est ton truc, le vélo ?
Ouais, exactement. Bah, j'ai fait du vélo par le passé, du cyclisme sur route à haut niveau, donc ce qu'on appelle la DN1, maintenant la N1, donc c'est le plus haut niveau amateur en France. Et puis à présent, en ce qui me concerne, la nutrition, j'accompagne également des cyclistes. Donc des cyclistes professionnels et puis également via la Fédération française de cyclisme. Donc ça soit des routiers, des pistards, quelques vététistes ou même des bicrosseurs donc qui font du BMX. Donc ouais, c'est mon dada et j'en fais encore, même si je suis plus passé sur le trail maintenant. Je suis encore cycliste et ça me plaît encore de vadrouiller dans les Alpes par où je suis né et où j'habite actuellement.
Tiens, alors on va rebondir parce que tu parles de trail. Quand tu viens du vélo et que tu te mets au trail, sur le plan, alors on va parler globalement, après on parle de nutrition, il y a des gros changements.
Ah bah la première fois que j'ai fait un trail, ça m'a fait bizarre. Hein. J'avais, comme on dit, la caisse au niveau physique où dans les montées il n'y avait aucun souci, voire ça allait même très bien. Par contre, première descente, au pied de la descente, j'avais mal partout, j'étais fracassé, comme on dit. Et la montée suivante a été difficile. Donc, ouais, c'est vrai qu'en vélo, on a le moteur, comme on dit, mais après, musculairement, c'est complètement différent du cyclisme, le trail, surtout avec les descentes. Et du coup, je m'en souviens encore et j'ai compris que maintenant, pour performer en trail, ou en tout cas se faire plaisir, fallait s'entraîner, fallait faire la descente. Et voilà, il n'y a pas que le moteur qui comptait, en tout cas.
Ouais, alors surtout qu'en plus, tu sais, et le gars qui connaît rien au vélo comme ça, qui dit ça, puis il dit « Ouais, mais un cycliste, de toute façon, en descente, ça sait se descendre tranquillement, il n'y a rien à faire en descente. » Alors bien sûr, l'image est fausse, mais quand même.
Ah bah quand même, ça m'a surpris, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi des croyances dans le vélo. Où je me souviens quand on courait, les anciens le disaient « Faut pas rester sur les jambes, faut pas rester debout, parce qu'un cycliste, c'est pas fait pour rester debout, et justement, c'est plutôt fait pour rester assis. » Et voilà, on se rend compte quand, ne serait-ce qu'on doit faire un peu de randonnée ou de trail, musculairement, ça passe pas.
Et sur le plan de la nutrition, parce que c'est un point important quand même, parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Après, on en parlait avec un triathlon, tiens, Bruno Obi, qui était notre invité précédent. On disait entre un sport, alors triathlon, c'est encore pire parce que tu as un moment, tu es à l'horizontale, après tu passes en portée et après tu passes en course, où là, tout se mélange dans le ventre. C'est pas les mêmes contraintes, je pense. Tu peux pas dire, tu mélanges pas la même chose entre un trail et un cycliste.
Alors c'est complètement différent. Et puis je dirais ce qui change le plus, c'est surtout le côté pratique. Ou en vélo, on a la gourde sur le cadre, on a les poches pleines, on s'alimente quand on veut et dans les quantités qu'on veut. En course à pied, il y a déjà ces contraintes matérielles où on n'a pas la même disponibilité de ces aliments ou de ces boissons. Et puis, il y a aussi les contraintes au niveau digestif où tous les chocs qu'on a, c'est beaucoup plus difficile de digérer. Et j'en parle pas en plus sur tout ce qui est ultra-distance, où il y a d'autres contraintes qui vont rentrer en ligne de compte, que ce soit sur le plaisir de manger, la capacité à avaler, à mastiquer certaines choses. Donc, c'est sûr que là, c'est complètement une autre discipline. Et en triathlon, on parle souvent de la quatrième discipline, la nutrition, mais c'est vrai que sur la course à pied, le trail, le triathlon, c'est un point vraiment primordial.
Mais en vélo aussi, parce que combien de fois, et puis on l'a vu cet été pendant le Tour de France, les trucs comme ça, combien de fois on voit des coureurs qui sont vraiment, qui ont des fringales, qui ont des coups de barre, y compris dans les favoris, parce que ça épargne même pas les favoris, hein, je pense à, donc j'ai perdu le nom, qui a gagné le Tour de France l'année d'avant, mais qui prend un coup de barre monumental, c'est vraiment aussi un truc, c'est, bon là en plus on parle de Formule 1, donc c'est vraiment réglé au kilomètre ces histoires-là, hein.
C'est ça, c'est sur l'étape du Galibier où Pogacar justement a pris un coup de bambou dans l'arrivée au col du Granon. Mais c'est vrai que c'est un point hyper important parce qu'on, par exemple, j'étais cet été sur le Tour de France avec une équipe cycliste professionnelle et on se rend compte de l'importance de la nutrition, que ça soit en récupération, même sur le côté plaisir, mais encore plus pendant l'effort où maintenant l'intensité est tellement élevée avec les distances qu'il y a au quotidien. Surtout de jour en jour qui s'accumulent. S'il y a un trou dans la raquette avec des apports alimentaires qui sont insuffisants, comme tu dis, l'hypoglycémie, elle est rapidement là, ça c'est sûr.
Et ils ont géré en plus un truc, et toi tu étais sur le tour, donc tu l'as vu. J'avais entendu un chiffre sur le nombre de bidons qu'un coureur consommait pendant l'étape où il faisait super chaud. On a dit, ils ont chacun 20, 25 bidons sur une étape. C'était ça à peu près ?
C'est ça, ça peut être entre 2 et 3 bidons par heure. Donc après, que ça soit ingurgité en forme de boisson énergétique ou d'eau, et aussi en aspersion pour refroidir le corps. Mais globalement, sur des étapes chaudes et de montagne, par exemple, on peut être sur ce volume-là. Donc sur une étape de 6 heures, à 2 ou 3 bidons par heure, ouais, on est entre 15 et 20 bidons par coureur. Donc c'est juste énorme.
Ouais, et puis on voit avec les coureurs qui remontent avec les stocks de bidons dans le dos et tout, on dirait des chameaux, des dromadaires qui transportent des trucs.
Exactement ça. Mais d'où l'importance dans ces sports d'équipe comme le vélo, et les coéquipiers sur ces étapes-là, ils ont de quoi faire.
Et alors tu vois, ça m'a quand même amené tout à l'heure, j'étais en train de faire toute autre chose et je me suis dit, alors attends, là on a quelqu'un qui connaît bien les coulisses et tout, et je me suis dit quand même, moi tu sais je viens du sport co. Et je suis beaucoup de sport co, et j'ai quand même l'impression que dans le cyclisme, la notion d'équipe, alors bien sûr sur les compétitions, on les voit rouler en équipe, il y a les hôtels, il y a les trucs comme ça, mais le reste de l'année, les équipes, elles sont dispersées dans les coureurs.
Ah bah les coureurs, ouais, c'est de plus en plus éclaté, c'est une discipline qui est, en plus d'être européenne, maintenant internationale, et voilà, c'est pas rare d'avoir dans les équipes plus d'une dizaine de nationalités différentes. Donc c'est vrai qu'on a souvent des coureurs qui sont là, entre l'Espagne, Andorre, le sud de la France, voilà, simplement pour des conditions d'entraînement qui sont plus cléments. Mais il y a encore des coureurs qui sont là, moi on a un coureur qui habite encore en Norvège, on a des Belges, des Italiens, il y a encore des Français, surtout des Bretons qui sont attachés à leur culture natale, donc eux ils restent par chez eux. Mais c'est vrai qu'en dehors des compétitions et des stages, que ça soit staff et coureur, on est éclaté un peu de partout.
Ouais, bon, en Bretagne il fait toujours beau, hein, de toute façon, ça c'est dit. C'est publicitairement parlant, moi je le dis, mais je suis en Auvergne, donc je suis pas breton, moi. Je suis en Auvergne, mais on va brosser dans le sens du poil. Surtout que la dernière fois que je suis allé, j'ai fait mon 24 heures Rennes, il faisait super chaud, même la nuit il faisait chaud, alors qu'on m'avait promis le froid, la pluie et tout. Donc maintenant je ne dis plus rien sur ce côté-là. Et pour l'anecdote quand même sur les conditions d'entraînement, c'est vrai que j'ai aucun mal à croire que certains recherchent la chaleur, les bonnes, ne serait-ce parce qu'en vélo, la sécurité de rouler sur du sec, c'est quand même plus confortable. J'ai vu ce matin, j'ai lu un article sur le, on enregistre, on est le 28 novembre, c'est le jour de reprise des équipes de Ligue 1, qui ont fait une pause pendant que les autres jouent la Coupe du Monde. Ils partent tous faire des stages en Espagne. C'est-à-dire que le championnat de Ligue 1, pchit, hop, ils ont tous pris les avions, les bus, etc. Lyon a commencé, les autres, ils partent tous. Tu vois, moi, je suis à Clermont. Clermont, je sais qu'ils partent ils sont partis aussi, là, ils vont partir faire leur stage, 10 jours en Espagne. Donc, c'est vraiment un truc qui est vraiment super important. Et puis, surtout en vélo. C'est vrai que les conditions, rouler l'hiver, la pluie et tout ça, là, c'est, il y a ça, il y a la sécurité. J'imagine, en plus, que, c'est quoi, là? On est dans la période, là, fin novembre. On va diffuser début décembre. Oh, c'est quoi là le quotidien d'un cycliste tout de suite? Il est quoi? Il est en repos? Il a déjà repris?
Ouais, bah les saisons sont de plus en plus longues. Hein. Maintenant, ils finissent mi-octobre en général. Après, ça dépend des coureurs, mais parfois il y en a, ils vont parfois jusqu'à plus d'un mois de coupure. Donc en tout cas, souvent bon 3 semaines de coupure. Donc une interruption quasiment complète de l'activité physique et encore plus du vélo. Et après, c'est une reprise progressive, donc qui va passer par une activité un peu variée. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire des sports co, par exemple. Enfin, c'est un peu varié. Puis progressivement, on rentre de plus en plus sur une préparation spécifique parce que les premiers stages hivernaux arrivent voilà dans une dizaine de jours, donc vers le 5 ou 10 décembre, selon les équipes. Et comme tu disais, avec les footballeurs, la majorité des équipes se retrouvent dans le sud de l'Espagne. Dans un rayon de 15 km, on a une quarantaine d'équipes, donc tout le monde se croise. Ça fait monter la pression gentiment, mais sûrement. Mais voilà, il y a des conditions parfaites là-bas, que ce soit en termes de dénivelé, en termes de conditions. Et du coup, ben, progressivement, on va glisser vers une préparation plus spécifique. Premier stage de décembre, c'est plus axé. Voilà, tout le monde se retrouve, un peu de cohésion. On fait beaucoup d'endurance. Et puis après, le second stage de janvier, là, c'est avant les premières compétitions. Là, on commence à remettre un petit peu d'intensité, mais ça reste quand même une grosse base, ce qu'on appelle une grosse base aérobie, avec des semaines de 25, 30 heures, voire plus des fois de vélo. Donc, sans rajouter la préparation physique générale, par exemple, en plus.
Ouais, ça fait quand même 25, 30 heures. Bon, après, on parle de cycliste pro, mais j'ai l'impression quand même, quand on dit ça, et quand on compare avec d'autres sports, bon, on peut reparler du foot, hein, où ils s'entraînent en général une heure et demie le matin, ou bon après, je veux bien qu'ils aient d'autres choses, mais ça fait partie des sports où on peut pas dire que les volumes d'entraînement soient énormes quand on compare à la course, et alors au vélo, on dit les forces de la route, mais c'est vrai que le temps passé sur le vélo, il est énorme.
Bah, complètement, même si la musculation a pris un peu plus de place que ces dernières années, pour un cycliste professionnel, une petite semaine, c'est quand même une quinzaine d'heures de sport. Donc c'est un vrai métier.
C'est un vrai métier, ouais. Et bon, en plus, il y a les home trainers, il y a plein de trucs hein, pour entretenir hein, sur l'histoire.
C'est ça, bah, l'entraîneur, et puis comme je disais, la musculation, pas que chez les sprinteurs, hein, les grimpeurs aussi en font, a pris une place vraiment importante, que ce soit en prévention de blessures ou même en développant de certaines capacités. Donc c'est un peu plus varié, mais il y a au moins 90, voire plutôt 95% de la pratique qui se fait sur la selle.
Et toi, dans ton rôle dans tout ça, parce que je sais même pas si on l'a vraiment dit finalement, bon, je mettrai ton compte Instagram, mais ton métier officiel, c'est quoi?
Donc moi, je suis diététicien nutritionniste. Après, j'ai plusieurs casquettes par le biais de la nutrition, on va dire. J'ai aussi un CAP cuisine, donc qui me permet aussi d'appliquer la théorie et la pratique après sur le terrain. Et puis après, le versant qui m'attire le plus, c'est vraiment cet aspect scientifique de la nutrition. Donc je suis aussi formé en micronutrition, nutrition du sportif. Et là, présent depuis cette année, et ça sera le sujet de la prochaine enregistrement, c'est au niveau pédagogie et psychologie du comportement alimentaire. Donc voilà, entre guillemets, pour mon CV. Après, concrètement, donc moi, je suis nutritionniste et j'accompagne aussi plusieurs fédérations, que ce soit la Fédération française de cyclisme par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais aussi la Fédération française d'aviron, pas mal investi aussi avec le ski. Et puis tout ce qui est fédération, comme les sports à catégorie poids, sport de combat comme la lutte, la boxe, etc. Donc une bonne partie de mes activités sont faites à l'INSEP à Paris, donc l'Institut National du Sport. Et après, j'interviens aussi de manière indépendante avec des clubs pro ou des structures fédérales. Donc voilà pour mon CV, on va dire. Et du coup, mon corps métier, ma principale casquette, c'est vraiment la nutrition et les aspects plutôt scientifiques, l'accompagnement, scientifique comme on l'appelle. Où là, ça va être varié, hein. Ça va être des sempiternelles questions de gestion de poids, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette en termes de qualité, etc. Mais après, ça peut être vraiment varié, avec l'incorporation de pas mal de données biologiques, que ce soit au niveau de l'hydratation, de l'urine notamment, au niveau de bilan biologique, au niveau d'analyse de sang, de sel, etc. Donc voilà, divers paramètres, que ce soit la glycémie, la lactatémie, différents éléments comme le stress oxydatif, etc., qu'on va venir étudier, mesurer. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on met en place, que ce soit dans l'assiette, dans la gourde, par exemple, pour les cyclistes. Et éventuellement, il y a des compléments alimentaires si c'est nécessaire, en fonction des besoins de l'athlète, et puis de sa performance et de sa discipline.
Si on en revient sur l'histoire des équipes, là, des coureurs, tu les suis toute l'année ou c'est vraiment sur des périodes plus précises?
Toute l'année, après, on va dire qu'il y a quand même des besoins, des moments où ils vont relâcher un peu plus. Donc, l'exemple des cyclistes, pendant leur coupure, moi, volontairement, je ne prends pas trop au bout de mon nez, puisque c'est aussi des moments de relâche. Donc voilà, ils sont libres, mais sur tous les plans, je dirais, hein, tous les plans, la performance sont un peu mis de côté, un peu ralenti. Mais après, c'est un suivi quotidien qui va passer par des stages d'entraînement notamment, c'est souvent des points importants, on est présent au quotidien avec eux. Après, il y a des moments clés dans la saison au niveau des courses. Donc c'est vrai que souvent les grands tours chez les cyclistes ou les classiques sont des points de passage importants parce que la nutrition va aussi être plus importante dans ces moments-là. Et puis après, entre ces compétitions en fil rouge, selon les besoins des coureurs, on va les suivre au quotidien, selon leurs besoins. Donc c'est vraiment varié, hein. Ça peut être juste des banales recettes ou des individualisations sur leur plan d'entraînement et du coup, si on découle au niveau de la nutrition. Mais après, ça peut être des tests entraînement qu'on va faire à la maison pour préparer la prochaine compétition, que ce soit en termes d'entraînement nutritionnel sur les quantités, le type d'aliments ou de boissons qu'on va prendre en compétition. C'est vraiment varié. Donc, il y a des points de passage, mais entre ça, il y a quand même un suivi du quotidien qui est important. Hein.
Ma question va être vraiment néophyte comme ça, mais on ne sait pas. Est-ce qu'un cycliste peut ne pas être sérieux sur son alimentation ou est-ce que ça pardonne pas du tout?
Ça peut marcher un temps, je dirais. Après, c'est vrai que sur la qualité des apports, tout ce qui est apport micronutriments, etc., il y a vraiment des différences assez importantes. Mais ça, c'est plus des choses, si elles ne sont pas soignées, qui vont pénaliser la performance ou la récupération plus sur le long terme. Par contre, tu parlais tout à l'heure des hypoglycémies, mais celui qui n'est pas vigilant sur ses apports en termes de quantité, ça, il va souvent rapidement le voir. En termes de récupération et de baisse des performances à l'instant T quand il y a une hypoglycémie. Et souvent, c'est vrai que c'est des sports comme les sports d'endurance où on parle beaucoup de la gestion du poids. au rapport poids-puissance. Mmh. Et donc, du coup, on a souvent tendance à restreindre ses apports parce qu'on se dit je veux pas grossir, ou même je veux plutôt toujours m'affûter au maximum. Et on se rend compte que souvent, c'est plutôt l'inverse. Le problème, c'est que les coureurs, ils mangent pas suffisamment.
Ouais.
Et sur le long terme, je pense que de mémoire, c'est des problématiques que tu as déjà abordées sur le podcast. Mais ces problématiques en fait de déficit énergétique, qu'il soit chronique ou aigu, ça a vraiment des répercussions sur la santé et sur la performance aussi. Et souvent, j'aime bien dire au coureur, en fait, si tu fais pas attention à tes apports, donc là, vraiment sur l'aspect quantitatif, tu as 100% de chances de trop manger quand tu es au repos et 100% de chances de pas assez manger quand tu es à l'entraînement. Donc, en fait, tu fonctionnes un peu la tête à l'envers et tu n'optimises pas en fait tous les processus adaptatifs sur le plan de ta progression. Voire tu t'exposes à des blessures, à tomber malade et ainsi de suite.
Et tu sais, moi, quand je vois le physique des cyclistes, mais surtout des pros, j'ai quand même l'impression qu'ils ont quoi comme taux de masse grasse, les mecs, là ?
Ah bah, les plus bas, ça, c'est souvent autour des 4%. Je pense qu'on a une moyenne autour des 7-8% en saison, sous les objectifs. Mais ouais. Voilà, les plus épais, je vais pas dire gros, parce qu'ils en sont loin d'être gros, c'est du 9-10%. Donc c'est bas, hein, c'est sûr, mais avec le nombre de kilomètres et d'entraînement qu'ils font, la dépense énergétique, elle est énorme. Sur le Tour de France, les grosses journées, on est au moins à des 6000 calories, même pour les petits gabarits. Ouais. De 55-60 kilos.
Et ils sont capables de manger autant qu'ils dépensent ou c'est physiquement impossible, enfin, je veux dire
C'est difficile et c'est pour ça notamment l'exemple encore du Tour de France, hein, mais souvent il y a un petit déjeuner, un repas du soir qui sont vraiment complets et le reste de la journée c'est des collations, c'est ce qu'on mange sur le vélo. Donc concrètement, en deux repas, c'est compliqué d'avoir autant de calories parce que simplement le système digestif et même l'appétence vers les aliments, elle n'est pas non plus énorme, surtout cette année avec les conditions chaudes qu'on a eues, ça c'est aussi un point qui va maltraiter le système digestif et pour autant même augmenter les apports, notamment les apports glucidiques. Donc maintenant, ce qu'on retrouve, c'est des apports de vin qui sont beaucoup plus importants sur le vélo, en récupération aussi, et des apports qui sont vraiment fractionnés. Bah, concrètement, ils vont avoir leur petit déjeuner, après ils vont avoir une ration d'attente liquide et ou solide avant le départ, après ils vont avoir tout ce qu'ils vont manger sur le vélo, et après, trois rations de récupération, donc en gros, heure par heure, après l'étape, plus le repas du soir, plus une collation avant d'aller se coucher.
Wow, et en fait, ils mangent sans arrêt, quoi.
Tout le temps. ils sont presque, entre guillemets, sous perfusion, sans mauvais jeu de mots. C'est dans du cyclisme, on va dire, mais c'est sûr qu'ils mangent, constamment.
C'est quoi une ration de récup, pour avoir une idée, pour ceux qui se posent la question, là?
Globalement, moi j'aime bien la fragmenter en trois prises, ou une première prise qui va être plutôt liquide, semi-liquide, simplement pour mieux absorber les nutriments, parce que le système digestif il est un peu en mode veille. Donc, souvent c'est des boissons sucrées, donc classiquement des jus de fruits et smoothies, ça peut être des sodas aussi de temps en temps quand ils en ont envie et besoin. Ça arrive quand il y a des apports vraiment des demandes vraiment importantes d'ajouter des bonbons, des fruits secs, etc. pour justement avoir la calorie facile. Et après, progressivement, plus le système digestif va reprendre un peu son activité, plus on va remettre des vrais aliments. Donc souvent, on est quand même sur une base de féculents, une protéine et un condiment ou une sauce. Et on va concrètement vraiment à l'essentiel. On veut vraiment de la calorie, des glucides, des protéines, de l'eau. C'est la priorité. Et le reste, tout ce qui est un peu micronutriments, vitamines, etc., viennent en complément, mais c'est pas notre priorité. Ça, on va vraiment le mettre notamment sur les principaux repas, le matin et le soir, où là, on aura un peu moins d'exigences sur l'aspect calorique de ces apports-là.
D'accord. Il y a des risques de carences particuliers qui sont liés au cyclisme, là, sur des où on retrouve à peu près les mêmes dans tous les sports?
Non, je dirais qu'on est un peu plus protégé les cyclistes par rapport à des sports à impact, comme la course à pied, comme le triathlon par exemple aussi, ou notamment sur la carence en fer. Donc déjà, les sports d'endurance, encore plus chez les femmes, si on aborde aussi ce sujet, on est sujet à ces carences. Mais en fait, d'avoir une course à pied, avoir de l'impact, notamment sous la voûte plantaire, ça va faire qu'on va avoir des micro-pertes en fer, parce qu'on va avoir des micro-saignements qui vont être répétés. Et ça va favoriser en fait une moins bonne rétention de ce fer qui va amener à la carence. Après, concrètement, chez les cyclistes, je dirais que la principale carence, c'est la carence énergétique, pas manger suffisamment. Et après, c'est des carences qui sont pas forcément chroniques, mais dans des conditions chaudes, on va être vigilant sur les apports en minéraux, comme le sodium principalement, mais également potassium, magnésium qui vont être importants. Le zinc va l'être aussi. Donc, on est obligé souvent d'insister sur l'apport en aliments via des fruits, des légumes, des céréales, etc. Mais on est souvent obligé de complémenter pour faciliter la réhydratation. Parce que sur des étapes, on peut perdre des volumes d'eau hyper importants. Et dans la sueur, notamment, il n'y a pas que de l'eau. Donc, on est obligé de compléter ces apports-là.
Sur les cyclistes, en fait, à partir de quel âge, finalement, ils s'intéressent vraiment à ces questions-là? Parce que, ça, est-ce qu'il y a un moment donné où ça fait vraiment une grosse, enfin, forcément que ça fait une grosse différence, parce que sinon c'est pas possible. Mais il y a vraiment à partir d'un moment auquel ils s'y intéressent plus que d'autres, ou, parce que moi j'ai eu des coureurs, tu sais, quand ils sont jeunes, j'ai l'impression qu'ils mangent à peu près n'importe quoi, puis quand ils se rendent compte que d'un coup ils ont un truc un peu à 22, 23 ans, ils commencent à s'intéresser un petit peu plus. Mais c'est pareil dans le vélo ou?
Bah, de mon expérience, donc tout sport confondu, pourquoi un athlète vient me consulter? Je pense que 90% du temps, c'est soit parce qu'il vient de se blesser, soit parce qu'il a une problématique de poids. Donc, soit prendre du poids, soit en perdre. Donc, c'est vrai que les cyclistes sont souvent, statistiquement en tout cas, moins touchés par les blessures, même si tout ce qui est tendinite, etc., ça peut être assez récurrent chez certains. Mais concrètement, c'est souvent la porte d'entrée de la gestion du poids qui va nous amener à échanger sur les questions de nutrition. Donc, je pense pas qu'ils viennent plus jeunes. Sauf si vraiment il y a des problématiques, notamment pour les grimpeurs, où ils veulent optimiser leur composition corporelle. Mais c'est sûr que la question du poids dans le cyclisme est importante, et c'est souvent la porte d'entrée qu'on a pour les consultations.
Et alors moi, tu sais, je me dis, et nos amis les sprinteurs, ces masses de muscles-là qui sont lancés à 70 bornes à l'heure dans les sprints, qui doivent passer les montagnes, etc. Comment ils gèrent, cette histoire de rapport poids-puissance? Parce que c'est un calvaire pour eux de traverser les Alpes et Pyrénées en vélo.
Ah, c'est souvent compliqué. Hein. Bon, nous, on a eu l'expérience cette année d'un Peter Sagan qui avait un peu de poids en plus. Ben, c'est tout de suite compliqué hein, quand il faut monter l'Alpe d'Huez et compagnie. Donc ça, c'est sûr que eux, les Alpes, c'est même les Pyrénées ou les autres massifs, hein, c'est pas une partie de plaisir. Après, c'est quand même bien organisé dans le peloton. Quand il y a un groupe Eto, donc le groupe en queue de course qui s'organise justement pour arriver dans les délais, ils gèrent en montée. Par contre, en descente et sur le plat, faut s'accrocher. Donc, Il gère, mais c'est sûr que c'est des étapes où c'est compliqué d'arriver dans les délais des fois, surtout quand on voit le niveau devant, en tête de course. Donc eux, c'est sûr que même s'ils ont de la puissance à conserver, ils doivent faire gaffe aussi sur la gestion du poids, parce que toute l'énergie qui est pas perdue dans les massifs, ben ils l'auront en plus sur des étapes de sprint et encore plus à la fin, par exemple du tour sur les Champs-Élysées, où souvent c'est la fraîcheur qui joue.
Et alors, tu vois, là, il y a un truc qui me dit, est-ce qu'ils ont une alimentation spécifique, eux, les sprinteurs, là? Parce que dans les, dernière heure, où ça va, roule à toute barzingue, où ils font encore pour être accélérés, etc. Ils ont un truc spécifique pour être sûr d'avoir l'énergie dans les 10 derniers bornes, là, où ça va toujours à fond et que ça accélère?
C'est pas concrètement sur le sprint où ils vont avoir la plus grande demande énergétique, et puis c'est une filière énergétique qui va être assez peu piquer peu de nutrition, on va dire, sur la filière la phosphocréatine notamment. Mais concrètement, leurs besoins sont différents, surtout sur leur composition corporelle. C'est souvent les athlètes plus lourds, donc ils ont des besoins plus importants. Donc c'est principalement sur ça. Et puis après, c'est sûr qu'on voit souvent que le sprint, les 200 derniers mètres, mais souvent en cyclisme sur route, le sprint, il commence 10 km, voire même avant des fois. C'est juste sur le placement, en fait. Ça roule tellement vite que même si on est dans les roues, c'est quand même une intensité d'effort qui est pas négligeable. Donc c'est sûr que si on ne s'est pas alimenté tout le début de course, parce que voilà, on se promenait dans le peloton et qu'il y avait une échappée, un fleuve, comme on dit, et qui est rattrapée en fin de course, c'est quand même des apports énergétiques qui sont quand même assez importants. De juste pédaler, c'est quand même pas négligeable.
Ouais, oui, parce que la dépense calorique énergétique sur des courses, elle est énorme, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est vraiment, ça fait pas, on se rend pas compte, hein, d'ailleurs, de la quantité d'énergie qu'ils dépensent pour rouler. Parce que, enfin, le Tour de France, il a tourné à quelle allure cette année-là? 45?
Les marches, je crois que c'est un record cette année, ou c'est pas loin de l'être. Mais oui, je crois que c'est plus de 40 km/h, ça c'est sûr. Mais c'est probable qu'on soit proche des 43 ou 45 km/h.
Sur des milliers de kilomètres, parce que c'est pas ceux qui roulent sur 180 bornes à cette allure-là, c'est-à-dire que c'est 180 ou plus tous les jours pendant 3 semaines avec 2 journées de pause, quoi.
Ouais, c'est entre 3000 et 3500 kilomètres sur 3 semaines. Donc ouais, c'est costaud. Après, classiquement, même chez les courses amateurs, la barre des 40 km/h sur des 3, 4, 5 heures de course, elle est, entre guillemets, assez facilement atteignable, avec l'effet de groupe, etc. Mais c'est sûr que sur 3 semaines, c'est là que ça devient complexe, surtout avec le dénivelé qu'il peut y avoir dans les massifs, où là, maintenir cette moyenne, c'est du solide.
Attends, j'ai même vu sur Ironman là ce week-end, là, comment il s'appelle l'Allemand là, il a 43 à l'heure de moyenne sur son 180 bornes après avoir nagé et avant de faire un marathon 2h30. Bon, voilà, c'est bon, il faut du bon carburant quand même hein, pour avancer à cette allure-là. Hein.
Ah bah ouais, mais même le vélo et le triathlon prend ainsi la même tournure, mais il y a cette culture de la performance qui va au-delà de la nutrition sur l'aérodynamisme, sur le matériel, sur tous ces aspects-là, c'est. Et tout est poussé au maximum. Donc oui, il y a des niveaux de performance qui sont incroyables. Mais derrière, il y a vraiment une culture qui est hyper poussée sur tous les aspects de la perf. Et voilà, ça en ressent.
D'ailleurs, il y avait... alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était qui ? C'était Sky. On avait parlé des boissons, des cétones, des trucs comme ça et tout. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup de recherches quand même pour savoir ce qu'il faut arriver à... Justement, pour arriver à pallier là, ces difficultés de calories ingurgitées, de tout ça, là. J'imagine qu'il y a plein de trucs qui sont testés en permanence.
Ouais. Bah, ça, c'est sûr que la nutrition du sport, mais aussi le cyclisme, bah aussi parce que simplement, c'est un sport qui a des moyens, et ben, il y a plus de recherches sur les sujets en question. Donc ça, c'est sûr que c'est des sports qui sont souvent en avance sur différents aspects, on va dire. Mais en tout cas, c'est vrai que cette question des cétones, elle fait souvent parler dans la presse. Après, concrètement, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça a très peu d'effet, voire ça a aucun effet sur la performance pure. Par contre, c'est sûr qu'on aborde ces questions de déficit énergétique, de capacité à s'alimenter suffisamment. Bah, c'est aussi, comme je le disais, des calories qui sont faciles, qui sont ingurgitées. Mais on peut se poser la question aussi de simplement avoir une stratégie à simplement calibrer mieux ses apports, à les fragmenter dans la journée, ce que je disais, les différentes collations dans la journée, les collations avant d'aller se coucher. Et pourquoi pas aussi agir simplement avec des aliments qui ont une densité nutritionnelle, qui sont plus riches en calories dans un petit volume, comme les graisses, comme les huiles, comme les oléagineux, etc., pour arriver en fait à des apports caloriques qui soient pas loin de la réalité. Souvent, voilà, il y a peut-être des questions à se poser sur ces compléments comme les cétones, etc. Mais il y a des équipes qui n'ont pas optimisé simplement cette base de simplement manger suffisamment. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu une discipline à deux vitesses, parce qu'il y en a qui sont au-delà de la performance, c'est de la recherche, c'est voilà, l'innovation, et il y en a qui suivent un peu juste le mouvement, on va dire.
Est-ce que j'ai tort de penser que un cycliste il est sur quelle filière énergétique le plus long de la course ?
C'est de l'aérobie, c'est de la basse intensité pour eux. C'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, on serait quasiment au maximum pour juste simplement suivre les roues. Mais eux, voilà, ils sont à des intensités même à plus de 40 km/h. Ils peuvent être sur une dominante d'aérobie. Et c'est ça qui fait leur force. Et voilà, si on compare un cycliste même de très bon niveau mais amateur et un cycliste professionnel, la différence, ça va pas se faire sur le potentiel maximum, sur un sprint, sur une accélération, mais plus sur la capacité justement à être durable en fait, à endurer un niveau d'intensité qui est bas, moyen, mais sans se fatiguer.
Donc au niveau alimentation, on va plutôt être sur quoi ? Sur des lipides, sur des choses comme ça, ou c'est comment les équilibres en fait ?
Ah non, pour autant, en fait, on va quand même être sur une dominante de glucides. Ouais. Et justement, c'est ce que même à des intensités basses, on va avoir des besoins en glucides qui vont être même très, très difficiles à compenser, même si on a des apports très élevés. Quand je dis très élevés, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on est souvent sur des apports entre 90 voire 120 grammes de glucides par heure. Donc, pour le petit exemple, souvent, une boisson d'effort du commerce, c'est 30, 40 grammes de glucides par gourde. En fait, il faudrait multiplier ça par 2, 3, voire plus. Donc, c'est des apports avec des boissons spécifiques, avec des barres énergétiques, des gels, etc., qui ont des apports importants. Mais en fait, la différence, ça ne va pas forcément se faire sur le vélo, où au final, les apports vont plutôt être glucidiques, même si l'organisme va puiser dans ses réserves de graisse. Par contre, c'est en fait tout l'entraînement qui est fait toute l'année, depuis des années, qui va forcer le corps en fait, à être plus économe. C'est-à-dire qu'il va quand même avoir la capacité d'utiliser ses glucides, à différentes intensités, mais en même temps de les économiser, en tout cas les réserves endogènes, ce qu'il y a dans le corps, donc ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Donc en fait, c'est des athlètes qui ont des capacités à brûler des graisses qui sont énormes, mais aussi qui ont la capacité d'aller chercher les glucides quand ils en ont besoin, et d'en utiliser des grandes quantités pour soutenir en fait les efforts qui sont faits.
C'est énorme hein, comme gestion quand même, parce que c'est vrai que là on rentre dans des trucs où on se dit bon bah pour nous le commun des mortels on fonctionne pas tout à fait de la même manière. C'est là où on voit aussi hein, c'est le niveau pro où vraiment les écarts sont vraiment incroyables hein, c'est vraiment des machines. Enfin pour moi à 4% de matière grasse, il me semblait qu'on n'était pas bien vivant, mais je peux me tromper, mais
C'est ça. Après, il y a de petites différences, des petites subtilités sur la teneur en masse grasse dans l'organisme. Mmh. Donc souvent, on va mesurer ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée, mmh. avec la pince à plis pour ceux qui connaissent, ou différents appareils qui vont mesurer la composition corporelle et le pourcentage de masse grasse. Mais justement, ces athlètes, ils sont souvent très peu gras au niveau visuel, sous-cutané, mmh. mais par contre, vont avoir une teneur en graisse à l'intérieur du muscle, qui va faire qu'il y a en fait un réservoir de, un peu comme le glycogène en fait, un réservoir de lipides qui est présent en direct en fait du muscle. Du coup, ça va être un substrat qui va être hyper prioritaire, hyper efficace, et qu'on va avoir la facilité à utiliser.
Ouais, tout l'inverse.
C'est
de
pas
moi.
Plus, voilà.
Bah, ouais, parce que moi, ma graisse, elle est visible
potentiellement. C'est ça. Bah, c'est ça, mais du coup, elle est pas forcément efficace parce que elle est pas au bon endroit.
Ouais, alors là, tu vois, d'un coup, je me dis, c'est quoi ? Il y a une part de génétique. Ou c'est que de la part de l'entraînement et de l'alimentation de l'entraînement qui fait qu'ils sont composés comme ça en fait.
Il y a un peu des deux, hein, mais c'est sûr qu'il y a une grosse part d'entraînement. Parce que là, ils sont athlètes depuis des années, ils font des kilomètres, quand on parle de plus de 30 000 kilomètres par an, des fois beaucoup plus. Ouais, c'est des heures de sel, c'est le corps qui est habitué à faire des kilomètres, des heures. Et du coup, il y a des adaptations qui vont se faire, mais oui, il y a une part de génétique aussi. Il y a l'entraînement, il y a aussi l'alimentation, que ça se fasse sur le vélo. Et en dehors, qui va aussi permettre ces différentes adaptations. Donc, c'est vraiment multifactoriel, mais il n'y a pas que de l'inné, on va dire. Il y a quand même beaucoup d'entraînement derrière.
J'ai une question qui est, on parlait d'un peu d'appétence, de la capacité à manger, le fait qu'il devait beaucoup manger, etc. Quand on est cuisinier comme toi, là, la tête du plat que tu leur sers, elle joue beaucoup sur leur, ou ils s'en moquent un peu?
Sur une journée, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu, ils ont quand même leurs habitudes du plat de pâtes ou du plat de féculent. Mmh. Mais voilà, sur 3 semaines, voilà, l'exemple du Tour de France cette année, c'est quasiment un mois, parce qu'on est parti du Danemark, donc on arrive quasiment une semaine avant. Donc un mois loin de la maison, un mois à que ce soit dur, un mois à être sous la chaleur, potentiellement avoir mal au ventre ou simplement avoir envie de manger des choses différentes, on est obligé de s'adapter. Et comme on sait que le principal facteur limitant, c'est qu'ils ne mangent pas suffisamment, donc l'impact limitant sur la performance, on est obligé d'utiliser des subterfuges, on va dire, pour les faire manger un peu plus. Donc ça va d'une cuisine un peu plus jeune, on va dire, un peu street food et autres, mmh. mais on va aussi sur des préparations voilà, qui sont gourmandes, qui sont plaisantes. On prend un maximum de liberté pour avoir une alimentation qui va répondre aux besoins nutritionnels en termes de qualité, mais dans lesquels ils vont prendre plaisir à manger des quantités suffisantes. Et donc, classiquement, sur les journées de repos, là, c'est traditionnel burger, traditionnel pizza, etc., mais qu'on va revisiter pour optimiser, en fait, cette base. Mais voilà, on est obligé d'avoir des idées. C'est pas qu'un plat de pâtes tous les soirs avec une tranche de poulet, des carottes râpées à l'entrée, une tarte aux pommes en dessert. On est obligé de varier. Mais nous aussi, on prend plaisir, du coup, en cuisine. Alors, voilà, jouer sur les recettes, les goûts, les couleurs, c'est plaisant.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est important quand même, parce que bon, moi je regardais ton compte Instagram, je voyais les photos et tout, je me dis mais bon, ça c'est une portion pour quelqu'un qui est, c'est pas un cycliste qui mange ça sur les portions. C'est des portions présentées pour une assiette gastro, c'est pas une portion présentée pour un cycliste quoi.
Bah ouais, concrètement, donc là cette année on avait des petits gabarits qui devaient faire 55 kilos, les plus lourds ils sont proches des 80 kilos, donc les portions, si je prends juste l'exemple des féculents, c'est... sur les petites journées des 250 grammes pour cuit de féculent, pour les petits gabarits.
Cuit, hein,
et souvent,
ça.
Ouais, pour cuit. Ouais. Et souvent, chez les plus gros, on est sur du 300, voire un peu plus. Sans compter, bien sûr, l'entrée, qui peut potentiellement être déjà à base de féculent. Pareil pour le dessert. Pareil, toutes les collations dans la journée. Donc, au final, ce qu'on essaye, c'est pas de surcharger la quantité sur le dîner. Parce qu'on sait que derrière, pour l'endormissement, pour le sommeil, ça va aussi avoir un impact. Donc, on a des apports conséquents. Mais au final, rapporté à la dépense énergétique sur le repas du soir, c'est pas des gros apports. Mmh. Par contre, sur la journée, là, c'est juste énorme.
J'ai une question, et là, c'est par exemple sur les féculents. Bon, tu disais à plat de pâtes. Les pâtes, elles sont complètes, elles sont pas complètes, semis, y a un truc?
Non, c'est classiquement des pâtes blanches, bah, simplement sur l'effet satiétogène que potentiellement vont apporter des pâtes complètes, donc plus rapidement rassasiées. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Parce qu'en fait, on a de la facilité, on a des difficultés à les faire s'alimenter en conséquence. Donc, si on part sur des aliments, voilà, beaucoup de crudités, des soupes, des pâtes complètes, je sais pas, des pois chiches et autres, ça va certes être intéressant sur la qualité. Par contre, voilà, une assiette, même pas, on va être rassasié. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu, c'est un peu plus réducteur sur l'aspect plus qualitatif et ce qu'on peut lire dans les livres en termes de nutrition. Mais on est obligé, en fait, de faire un peu un rétropédalage pour simplement avoir l'aspect quantitatif qui est rempli, quoi.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est tout l'inverse de ce qu'on dit en diététique. Notamment quand on perd du poids et tout, on dit bon, bah, on va plutôt aller sur des aliments, des pâtes complètes, etc. Mais c'est vrai que là, le but du jeu, c'est plutôt d'en manger. Et puis, de toute façon, t'as aucun doute sur le fait qu'ils vont les perdre. Enfin, quand ils roulent, qu'ils sont en entraînement, en compétition. Parce que, en pause, là, en période de pause, vous leur mettez une alerte aussi sur le truc en disant attention, le ventre, il a de la place, mais il faut peut-être pas le remplir.
Ouais, bah après c'est sûr que ça dépend vraiment des gabarits. Il y en a qui vont rester au même poids toute l'année, il y en a qui vont prendre quelques kilos l'hiver. Après, bah comme je disais tout à l'heure, hein, la coupure, c'est un moment important pour eux. On les laisse vraiment tranquilles. Après, bah faut pas oublier qu'ils sont professionnels, hein, qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent, donc ils ont des droits mais des devoirs aussi. Donc c'est sûr que il y en a qui reprennent du poids, mais dès la reprise, on peut suivre ce point-là et se porter, mais se mettre à disposition si jamais ils ont des questions pour rectifier le tir le plus rapidement possible. Mais c'est sûr qu'il y a un poids, en tout cas pour ceux qui ont des variations de poids, un poids différent entre la coupure, entre la période de pré-saison et la période d'objectif. Mais il n'y a pas non plus des amplitudes de 10 kilos, quoi. Ça va rester proche de la réalité toute l'année.
Ouais, c'est pas du rugbyman, quoi. Non, parce que pour l'anecdote, quand même, et moi je le dis parce que j'ai vu, et des joueurs ont témoigné à une époque, à l'ASM, Clermont-Auvergne, quand Verne Cotter est arrivé, donc il y a un bon paquet de temps, lui aussi il avait la pince. Et il les est passés tous les lundis à la pince, ou tous les mardis, je sais pas quel jour, et il savait, les mecs, que quand ils avaient trop de masse grasse, ils partaient dans une salle qui était chauffée, on leur faisait faire des pompes, du cardio, tout ce qu'ils détestaient. Ils allaient tout sauf le ballon, ils le détestaient. Et c'était vraiment, les gars, enfin vraiment des vraies discussions en disant « punaise, pourvu qu'on n'y passe pas, pourvu qu'on n'y passe pas, pourvu qu'on n'y passe pas ». Mais ils avaient des vraies grosses variations de poids, certains. Y a des joueurs qui arrivaient, mais vraiment un peu grassouillés. Alors après, maintenant ils jouent pendant les fêtes. Donc ils jouent le 25 décembre, ils vont jouer les trucs. Maintenant ils sont les fêtes, c'est un peu différent. On va le voir en foot aussi cette année, ils vont même jouer le 1er janvier. Mais c'est vrai que c'est y a des sports où on a l'impression, j'ai vu en des équipes de foot aussi des joueurs qui pendant l'été revenaient avec un peu de poids, ils avaient fait les barbecues, ils avaient relâché, certains on a l'impression qu'ils prennent quand même relativement vite en plus. Sur un vélo, ça pardonne pas trop cette histoire là, quoi.
Ah bah c'est sûr, hein, bah t'imagines que quand ils dépensent même à l'entraînement au moins 2-3 000 calories en plus que leur besoin de base sur une journée classique, ben quand tu t'arrêtes pendant un mois de faire quasiment aucune activité, ben tu continues de manger la même chose, le poids il remonte vite, hein. Mais il y a quand même un professionnalisme qui est beaucoup plus présent que avant. Et tu vois, juste pour la comparaison, tu parlais du rugby ou du foot, mais pour travailler pas mal avec les boxeurs, les lutteurs, certains judokas, etc. Là, c'est quand même un autre niveau. Entre les régimes, il y a des variations de poids. J'avais un lutteur, qui faisait moins de 60 kilos en catégorie. Et il avait eu dans l'année 7 pertes de poids de 9 kilos. Donc, moins 9 kilos, plus 9 kilos cette fois. Ouais. Donc à la fin de saison, bah, c'était de plus en plus dur les régimes. Sans parler des blessures, sans parler des rhumes, des infections. Et puis du manque de performance simplement. Hein, parce que quand on vient de perdre 9 kilos... au mieux 2-3 semaines, au pire en quelques jours, et ben c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à des miracles derrière, quoi. Mais c'est vrai que du coup les cyclistes ont pris des habitudes quand même beaucoup plus saines. Et puis des fois, si on va jouer sur le poids, sur des moments très aigus, on va le faire de manière entre guillemets artificielle, où on va jouer sur l'hydratation, sur le contenu intestinal et autres, pour éviter en fait de réduire l'apport calorique. Pour autant, on va perdre du poids assez facilement, donc quelques kilos des fois qui sont pas négligeables dans des ascensions de col ou des courses particulières.
C'est quoi que tu appelles jouer sur le contenu intestinal? Parce que alors là, je vois pas.
Bah, concrètement, c'est des adaptations au niveau de l'alimentation qui vont me faire effet un peu comme des laxatifs. En fait, on va vider le tube digestif de tout ce poids mort qui est en transit avant de ressortir. Donc, en fait, c'est avoir une alimentation qui va être très pauvre en fibres, par exemple, et en résidus. Donc, pour vider le tube digestif et gagner ce poids-là qui est en attente et qui nous sert à rien. Et pareil, sur l'hydratation, on peut avoir un certain intervalle où on va pas ou peu impacter la performance si on se déshydrate légèrement. Pour autant, ça peut être quelques centaines de grammes qui sont pas négligeables sur la perf, sur un poids puissance.
Ouais, c'est vraiment incroyable. Et parce que tu m'as dit, tu suivais l'aviron aussi. L'aviron, ils sont quand même réputés pour être très 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 tatillons sur le poids toute l'année et tout. Il y a eu, le champion qui avait dit qu'il était en lutte permanente, mais à point de pas pouvoir manger une barre chocolatée avant d'aller se coucher ou quoi que ce soit. C'est lesquels les plus tatillons entre les deux là?
Ben déjà, pour ceux qui savent pas, l'aviron, c'est aussi un sport à catégorie de poids. Donc, ouais. Il y a des poids légers et des toutes catégories. Donc, les poids légers pour les filles, c'est moins de 57 kilos. Pour les garçons, c'est moins de 70 kilos. Donc, vu la masse musculaire qu'ils ont entre le haut et le bas du corps, comme tu dis, ça peut être très difficile de maintenir ce poids pour les compétitions, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de marge parce que souvent, ils sont pesés entre 1 heure et 2 heures avant le départ. Donc, on peut pas faire comme les boxeurs, etc., avoir un gros régime, mais par contre, avoir le temps de récupérer derrière. Donc, ils sont souvent pas loin de leur poids de compétition toute l'année. Et pour autant, ils dépensent, dans mon expérience, ils dépensent un peu plus de calories que les cyclistes.
Ah oui.
Plus de masse musculaire en jeu, ça peut être des journées pour les gros gabarits à 7-8 000 calories. Voilà, tu vois, je reviens de stage avec la Fédération française d'aviron, on était en altitude à Font-Romeu. Ils sont à 4 entraînements par jour.
Donc, 4 entraînements par jour.
4 entraînements par jour, sans compter les 20-30 minutes de réveil nocturne, de réveil matinal en marche en extérieur.
Donc, ouais, mais en fait, on dit les cyclistes, c'est des forçats de la route, mais attends, les rameurs, c'est vraiment. Ils rament vraiment, les mecs, hein. C'est fou, hein.
C'est costaud, ouais. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Après, c'est vrai que l'aviron, c'est sûr, il y a le poids qui va être important sur les frottements de la coque du bateau sur l'eau. Donc, plus t'es lourd, plus t'as de frottement, concrètement. Mais je dirais que le poids est quand même, sera pour poids puissance et beaucoup plus pris en compte chez le cycliste. De manière, c'est culturel dans ce sport-là, en fait, d'être affûté constamment, que ce soit sur l'aspect esthétique et sur l'aspect perf. Mais voilà, sur l'aviron, c'est quand même un peu moins prise de tête, on va dire, même si c'est important.
Ouais, il faut dire que le vélo, en plus, il y a une culture aussi sur la technologie. Hein, moi, j'ai travaillé avec un marchand de vélo. Je te disais, je connaissais rien au vélo, mais j'ai travaillé 3 ans avec un marchand de vélo quand même. Où on regardait les vélos qui arrivaient, les cadres carbone, etc. Où il était même capable de monter des vélos qui étaient pas homologués pour l'UCI parce que c'était trop léger. Tellement il fallait même les alourdir, rajouter du poids dedans. Parce que ça fait partie aussi de ça. Hein, c'est-à-dire que la culture du poids dans le vélo, elle va jusqu'à la moindre pièce du vélo. Hein, et on le dit, les fabricants sont capables de fabriquer des vélos qui sont trop légers pour les réglementations officielles. Donc il faut les alourdir, faut retrouver les équilibres. Donc c'est vraiment une culture, quoi, hein, cette histoire-là de poids. Hein.
C'est ça. Tu parlais des vélos, hein, mais dans le vélo, cyclisme sur route, il y a une barre inférieure à ne pas dépasser à 6,8 kg pour les vélos. Mais comme tu dis, ils sont obligés de rajouter un peu de plomb ou autre dans le cadre pour alourdir la machine, quoi.
Comme quoi, hein, la technologie peut des trucs. Non, parce qu'on parle beaucoup du carbone dans sur la course à pied, ou alors en ce moment tout le monde est en train de regarder lequel gagne la course et quelle chaussure carbone il a, etc. Mais c'est vrai que le carbone dans le vélo, c'est un truc, ça fait tellement d'années qu'il y a du carbone, qu'il y en a partout entre les roues, les cadres, les moindres pièces, etc. Et puis tout un tas d'alliages, etc. C'est une sacrée mécanique. Et puis pour ceux qui s'y intéressent un peu, qui regardent un peu les mécaniques, eux ils le savent. Mais ceux qui s'intéressent pas, il y a pas que là-dedans, hein, parce que les dérailleurs avec les transmissions électriques, électroniques, les réglages, etc. C'est vraiment du. Enfin, je disais tout à l'heure de la Formule 1, parce que j'ai vraiment cette image-là, c'est-à-dire que c'est tout réglé. Enfin, les transmissions maintenant, c'est des petites gâchettes, ça va super vite, etc. Il y a vraiment de la technologie qui se glisse partout. Et on disait, hein, finalement, il y a de la technologie partout. Et je me disais, la nutrition. Alors, je sais pas si c'est capable de représenter, mais tu vois le pourcentage de réussite dans un coureur, parce que bon, le matériel, ils ont. Je dis pas qu'ils ont tous le même matériel, parce que bien sûr, il y a des équipes qui ont plus d'argent que d'autres, etc. Les conditions d'entraînement varient. Mais la nutrition, elle joue à combien de pourcents finalement dans tout ça?
C'est difficile à dire. Après, déjà, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec la nutrition pour éviter les contre-performances? Tu parlais des hypoglycémies tout à l'heure. C'est déjà pas mal si tu arrives à avoir suffisamment d'énergie pour faire ton effort. C'est un peu moins le cas, mais ça peut quand même arriver dans le cyclisme. C'est plus vrai sur le course à pied, le trail, etc. Mais tout ce qui est troubles digestifs aussi. Il y avait un vainqueur d'un certain Giro il y a quelques années qui avait dû s'arrêter avant l'ascension d'un col. Ben, voilà, c'est aussi du temps perdu. Donc, c'est déjà prévenir la contre-performance en mangeant suffisamment les bonnes choses au bon moment. Et puis après, ben, il y a tout ce qui nous permet d'optimiser. Donc, que ça soit dans le suivi au quotidien, dans le contenu de l'assiette, dans les apports caloriques. Voilà, maintenant, on est sur des modèles où à chaque journée, selon le type d'entraînement de la journée, on va avoir des apports précis en termes de macronutriments, de glucides, de protéines, de lipides à certains moments de la journée, pas à d'autres. Pareil sur le vélo, par exemple. Donc, c'est hyper varié. Et tout ce qui apporte en complément, donc qui sont divers et variés, hein. Ça va de la ceinture au jus de cerise, au jus de betterave, à des compléments moins naturels dans le sens où ça vient de la chimie. Mais par exemple, de la caféine, des choses comme ça. Donc, c'est divers et varié, mais on va dire que notre champ d'intervention nutritionniste, il est hyper large. Ça va de la recette de cuisine au plan alimentaire le jour de la compétition avant le contre-la-montre qui est timé à la minute, quoi. Ouais. Donc c'est voilà, et au gramme près aussi. Donc c'est varié et je pense que ça c'est pris en compte maintenant dans ces incontournables dans la performance comme le matériel, comme le sommeil, comme la nutrition, comme tous ces aspects-là qui sont obligatoires en fait si on veut accéder au niveau maintenant.
Ça m'importe deux questions, mais j'en ai une d'abord, c'est que tu parlais des contre-la-montre, c'est timé à la seconde près, hein, c'est vrai que c'est un truc. Mais tu vois, moi par exemple, le Tour de France, là, le prochain Tour de France, le 9 juillet, il arrive au Puy-de-Dôme. Bon, c'est une étape 184 bornes, et puis à la fin, t'as un espèce de mur de 12%. Les mecs en auront plein les pattes, parce qu'ils auront fait, ça sera le 9e jour de course quand même, hein, parce qu'il n'y a pas eu la journée, c'est la dernière étape avant la journée de repos. Donc ils passeront une belle journée de repos à Clermont, tu vois, ça va être cool, etc. Mais cette étape, cette montée du tour de, quand t'as fait 184 bornes juste avant et que ça va rouler n'importe comment, parce que ça c'est sûr, avec nos petits vallons, je me dis quand même que les gars, pour être sûr de pas prendre le mauvais coup de bambou là juste avant la dernière montée et d'avoir de l'énergie parce que là tu peux prendre un écart qui est quand même mastoc sur les quelques kilomètres, ça veut dire que avant il faut quand même prévoir, faire un plan en disant attention à tel endroit il va falloir ravitailler, il faut faire attention à tel élément et tel élément.
C'est ça. Après, j'ai pas le détail de l'étape en amont, mais déjà 180 bornes, ça va quand même nécessiter un peu de temps. Le massif central, j'imagine que ça va être un peu vallonné en amont, donc il va quand même y avoir une étape usante. Donc même si de mémoire le Puy-de-Dôme c'est quoi, c'est 5 km de montée, c'est pas non plus énorme si.
Ouais, je veux dire il est pas long, hein, mais c'est vrai qu'il fait. Moi je me rappelle et quand j'étais gamin j'ai un souvenir, je peux le dire parce que j'ai vu ces images là la dernière fois qu'ils sont arrivés autour. J'étais au sommet et où les vélos en danseuse, ils les penchaient, on a l'impression qu'ils avaient touché le sol. Il y avait Delgado et tout, c'était tellement c'est vieux, tu vois, c'était il y a très très longtemps dans ma jeunesse. Et c'est vrai que ça y arrache hein, quand même. Le dernier truc, ceux qui l'ont monté savent que ça y arrache un peu. C'est pas très long, mais c'est vrai que le mec qui place une attaque et qui a l'énergie pour placer une attaque sur les pourcentages du truc, il y a eu des grosses étapes, on le sait, hein, Anquetil et compagnie, les grandes légendes, ça y attaque. Mais avant, la veille, il y aurait eu 201 bornes. Limoges et compagnie, là. C'est pas plat, c'est des espèces de trucs, des vallons, etc. Là, il y a 184, il y a rien de plat. Donc, je me dis, ça veut dire que, quand même, il y a un moment, il y a une stratégie qui doit être définie pour ça aussi, quoi.
Bah ouais, je pense que classiquement, ça va être une montée plus de puncher, on va dire. Il n'y aura pas que les purs grimpeurs au sommet. Donc, ça va vraiment nécessiter de l'explosivité et de la résistance dans l'effort. Donc, voilà, si, entre guillemets, je donne mon plan idéal sur une étape comme ça. Déjà, ben, comme tu disais, il y aura une étape difficile la veille. Donc, il est possible que pour certains, ils soient déjà en dette d'énergie des jours précédents. Donc, ça va être de s'alimenter, en fait, sur toute la course. On va viser des apports glucidiques proches de 90 grammes par heure tout le début d'étape. Et puis après, je dirais, dans les 1 à 2 heures avant l'arrivée au sommet, on va essayer d'aller chercher un gap supplémentaire en ayant des apports un peu plus élevés. Et après, bah, selon les habitudes de chacun, il se peut qu'il y en a qui fassent des stratégies pour potentiellement se déshydrater légèrement avant cette montée. Il y en a qui vont peut-être utiliser un peu de bicarbonate de sodium, par exemple, pour tamponner un peu cette acidité qui va être produite sur l'ascension finale. Il y en a qui vont peut-être prendre des gels énergétiques qui vont contenir la caféine ou autre. Donc voilà, ça va être un moment très intense, relativement court quand je compare à des ascensions de 20 km qu'il y aura sans doute dans les Alpes. Mais voilà, ça va être vraiment hyper énergivore cette ascension finale. Mais surtout, ça va être l'anticipation qu'on va avoir dès le départ en fait. Si on ne veut pas faire d'hypoglycémie sur cette montée finale, il ne faut pas prendre de retard sur les heures précédentes.
Ouais, alors je te confirme, ces quatre derniers kilomètres à 12%. Voilà, donc c'est vraiment les punchers qui vont faire le truc et tout. Ça va vraiment être vraiment une sorte de puncher. Des fois, je me demande s'il ne faut pas mieux monter. C'est pour une blague, hein, mais ça se monte aussi en courant à fond. Et on voit aussi que là, c'est des sacrés punchers qui montent ça. Il y a des temps, il y a des records qui sont faits là-dessus et tout. C'est assez impressionnant. J'avais quand même, tu sais, une autre question parce que tu sais, il y a un grand débat qui porte. Et moi, j'ai eu des coachs qui m'ont dit oui, mais pour la récupération, faut prendre des trucs genre BCAA et compagnie, tu sais. Alors ça fait débat parce que en fait ça sert à quelque chose ou pas. Est-ce que vous dans le cyclisme ou dans d'autres sports c'est des choses en fait où vous dites ça ou finalement on va beaucoup plus loin que ça en fait ou ça c'est qu'un détail.
Bah je pense que les BCAA donc dans mon expérience que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports c'est peut-être le mythe le plus implanté en termes de nutrition du sport. Donc les BCAA pour ceux qui connaissent pas c'est trois acides aminés qui sont essentiels et qui sont apportés de manière isolée. Donc, sous forme de complément alimentaire. Mais en gros, déjà, si on parle de récupération, c'est déjà un premier point. L'organisme, il a besoin de plusieurs acides aminés, pas que ces trois-là. Donc, d'apporter de manière isolée ces trois acides aminés, concrètement, ça sert à pas grand-chose. L'idée numéro un, si on veut éviter, en fait, d'aller taper dans ces BCA qu'on a aussi, nous, dans notre propre corps, et donc éviter d'aller taper derrière dans la masse musculaire, c'est déjà d'avoir des apports énergétiques suffisants, notamment des apports glucidiques. En fait, souvent, on va chercher ces BCA dans notre organisme à partir du moment où on se retrouve en déficit d'énergie, notamment de glucides. Donc déjà, première intention, si on veut mieux récupérer, et ça, je le dis souvent, en fait, la récupération, elle commence pas à la fin de l'effort, elle commence dès qu'on commence l'effort. Parce que plus on va puiser, en fait, dans nos réserves, qu'elles soient glucidiques ou même de ces fameux BCA, eh ben, ça va impacter la récupération derrière. Donc déjà, en termes de récupération, c'est d'anticiper d'avoir des apports réguliers et conséquents pendant l'effort. Deuxième point en récupération post-effort, là, plutôt essayer d'avoir une protéine qui est complète. Donc, on entend souvent parler des protéines de lait comme la whey. Mais pour autant, ça peut déjà être simplement une protéine animale ou un mix de compléments végétal. Ça peut complètement être intéressant tant qu'on a tous ces acides aminés qui vont être dans ce même bol alimentaire. Et après, les BCA, on en parle aussi dans les sports d'endurance parce qu'ils peuvent potentiellement avoir un effet sur ce qu'on appelle la fatigue centrale. Potentiellement, ce qui va amener à faire que le cerveau est fatigué concrètement et qu'on est plus à même de poursuivre l'effort. Ça reste quand même un niveau de preuve assez faible. On a concrètement plus d'effets avec d'autres compléments comme la caféine, comme d'autres acides aminés, par exemple, qui peuvent avoir plus d'intérêt que les BCA. Donc, je dirais que c'est pas négligeable sur ces aspects de fatigue centrale. Par contre, en termes de récupération, il y a concrètement aucun intérêt.
Bon, bah tu vois, et non parce que moi j'aime bien, tu vois, alors je prends le pouls un peu de tous ceux qui sont parce que c'est vrai, et c'est intéressant de dire que ça fait partie des mythes ou pas parce que y a plein de trucs qui sont dits, il y a ceux qui jurent que par ça, etc. Mais après, tout à l'heure tu m'as dit un truc, tu as parlé de jus de betterave. C'est pas un mythe alors le jus de betterave.
Ça fait partie en fait de certains compléments alimentaires. Ils sont 5 ou 6 à être reconnus vraiment sur leurs effets, ce qu'on appelle ergogènes, donc ils vont améliorer la performance. Après, voilà, je tiens à vous rassurer, on n'est pas sur des pourcentages d'évolution, d'amélioration de la performance importants. Hein. Sinon, on appellera ça du dopage. Mais concrètement, ça peut avoir un petit effet supplémentaire sur différents mécanismes. Et le jus de betterave en fait partie, même si le niveau de preuve il est plus important chez les athlètes, chez les sportifs qui sont moins aguerris et avec des niveaux de capacité aérobie moins importants, mais ça peut faire partie de tous ce qu'on appelle ces gains marginaux qui viennent permettre d'améliorer des petits pourcentages de performance, même plutôt des centièmes de pourcentage de performance qui additionnés vont faire que c'est intéressant.
Non, parce que moi, sur une course, j'avais gagné un complément alimentaire. C'était un mélange de spiruline et de jus de betterave. J'ai une copine du club qui disait, ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est super bon et tout. Alors, je dis, tu parles au goût? Elle me dit, non, je me sens mieux après. Et tu sais, j'ai jamais su, parce que moi, je voyais pas l'écart, et j'ai jamais su à quel point il y avait un côté placebo ou pas dans cette histoire-là. Mais c'est vrai, après, je me dis, psychologiquement aussi, l'alimentation, ce que font les cyclistes là, l'entraînement, c'est aussi se rassurer sur le fait que le jour de la course et le jour où ils en auront besoin, ils auront toute l'énergie qu'il leur faut pour aller à fond, quoi.
C'est ça. Mais tu parlais d'effet placebo, pour moi, c'est hyper important, et même plus important que l'effet d'un complément alimentaire potentiellement sur la performance. Ils avaient fait une étude, justement, où ils parlaient de la caféine, où ils avaient pris différents groupes, et en gros, ils avaient dit, vous prenez pas de caféine, vous en prenez un petit peu, vous, de manière modérée, et vous en prenez beaucoup. Ils avaient fait un test de performance, et en gros, le niveau de performance était plus élevé chez ceux où on avait dit, vous avez pris plus de caféine. Sauf qu'au final, on avait donné de la caféine à personne. Donc voilà. T'imagines le côté placebo, et ça, moi, je trouve ça malin aussi de s'en servir dans nos métiers où la force du discours qu'on a avec eux, elle est hyper importante. Parce qu'au pire, ça marche. Enfin, au mieux, ça marche. Mais au pire, l'effet placebo est là aussi, et c'est pas négligeable. Quand on voit la force du mental maintenant et tout le travail qui est fait maintenant en préparation mentale, pourquoi s'en priver, hein?
Ouais, mais c'est vrai hein, que il y a des trucs comme ça. Après, je pense qu'il y a aussi ce qui rassure les habitudes, parce que je pense qu'ils ont chacun aussi un peu leur. Je suis en train de chercher un peu leur croyance, est-ce qu'il y en a qui sont superstitieux peut-être? Je sais pas si t'en as croisé des mecs qui disent mais moi avant une course faut que je mange absolument ça, ou alors bon, un cycliste du Tour de France c'est peut-être compliqué parce que ça devrait que tous les jours ils mangent la même chose, mais peut-être dans d'autres disciplines, peut-être t'as des gars ils disent ou des filles qui disent mais moi la veille d'une compétition je prends absolument ça parce que ça marche à chaque fois, quoi.
Souvent, quand ils essayent quelque chose un jour et que ça marche, en termes de résultats derrière, c'est une routine qu'ils vont conserver pendant quelques temps, avant potentiellement de remettre en question si ça remarche pas. Mais c'est sûr que la force de ces croyances, elle est hyper importante, et que ça soit une routine pré-effort, ou là, l'exemple du post-effort, ou le mythe un peu de la bière. Mais concrètement, la bière récup, c'est sûr que sur le plan physiologique, elle fait plus de mal que de bien. Par contre, sur le plan récupération mentale, là, c'est gagné. Donc, faut savoir user de ces différents procédés pour en tirer un maximum de bénéfices, ça, c'est sûr.
J'ai eu, je crois que c'est Cyril Blanchard, non, je sais plus lequel, non, pas Cyril Blanchard, lequel c'est. Un m'a dit que lui, son truc de récup, c'était une glace à la fin de genre l'UTMB, tu vois, un truc comme ça. Ils mangent des glaces, les cyclistes?
Nous, la difficulté, c'est sur le côté logistique. On n'a pas un congélateur dans le bus ou dans le camion. Par contre, voilà, je parlais de la bière de récup. Potentiellement, on va prendre des bières sans alcool qui peuvent plaire à certains. Je parlais d'une journée, on n'en a pas eu cette année parce qu'on a eu la bonne météo tout le long, mais il suffit qu'il ait fait froid, pourquoi pas aller vers un plat chaud un peu réconfortant. La pizza, souvent, ça revient souvent, mais ouais. Concrètement, cette année, au sommet de l'Alpe d'Huez, ils avaient tous une part de pizza. Donc voilà, c'est important. La tête, les jambes aussi, mais la tête est aussi importante.
Moi, je trouve que c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on voit tous les répercussions, tout comment tout se mêle en fait, hein, vraiment dans cette histoire-là. Moi, j'ai quand même des images, tu vois, alors j'ai vu sur ton compte Instagram, t'as une photo de Julien Alaphilippe en 2020 là, quand il devient champion du monde. Là, c'est l'année où il s'en va là, tout seul. Là, on se dit quand tu vois arriver là au bout là. Tu dis là, tout le boulot, bon, bien sûr, il y a l'entraînement, mais la nutrition, tout, le technique, tout a bien marché en même temps, quoi. Tout a bien marché en même temps.
C'est ça. Du coup, c'est vrai que j'ai eu deux fois la chance, les deux seules fois où il a gagné, mais d'être dans le staff de Julien Alaphilippe sur ces deux titres de champion du monde. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper gratifiant de voir que tout se passe bien le jour J. Donc, c'est sûr que, on fait partie de la performance. C'est toujours après difficile de se placer par rapport à cette besoin de reconnaissance ou pas, je sais pas si c'est la question, mais en tout cas c'est gratifiant, et puis surtout avec des athlètes comme lui qui sont hyper ouverts et vraiment pas compliqués, donc c'est une réussite collective.
Ouais, mais c'était pas trop sur la reconnaissance, c'est-à-dire que finalement pour être capable de faire ce qu'il fait sur les derniers kilomètres, de partir comme ça et que personne ne le rattrape, c'est de se dire que, enfin, franchement, il est, bien sûr, il y a toute la saison, il y a ces années d'entraînement, mais même ce jour-là, c'est de dire qu'il a le gaz, il a l'hydratation, elle est nickel, l'alimentation est nickel. Enfin, après, peut-être pas, parce que peut-être que dans les coulisses, on se dit à la fin, il fallait pas que ça fasse 5 mètres de plus, peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, ce jour-là, tout s'est aligné pour que tous les réservoirs, tout ce qui était bon était en place, quoi.
Ouais, bah concrètement, je me souviens notamment de son premier titre en Italie, où il y avait la spécificité en fait de sortir le Tour de France. Donc il se finissait le Tour de France le dimanche, et ce dimanche suivant, bah, ils étaient sur une course de plus de 250 km avec le dénivelé qu'il y avait. Donc il y avait un besoin de récupération qui était hyper important, et justement on avait un peu timé ces apports-là dans la semaine précédente, où il y avait ben, 2-1 le début de semaine, un besoin de récupérer mentalement et physiquement, et après ben, une recharge en fait de ses réserves en vue de la course les 3 jours précédents, où là on avait des apports ben, beaucoup plus importants, notamment en glucides, et puis après avec tout le travail qui a été fait avec les assistants, les kinés qui étaient sur le bord de la route jour de la course, pour en fait avoir des bidons, des gels énergétiques, etc., à des moments clés, pour avoir des apports suffisants pour convenir à la dépense du jour. Et notamment en Italie, il avait fait plus de 10 km d'échappée seule en fin de course après une grosse attaque. En Belgique, l'année suivante, on était sur plus de 40 km seul. Donc là, on est sur des dépenses énergétiques où c'est comme un contre-la-montre après plus de 200 km. C'est sûr que si on part avec le réservoir vide, on n'ira pas loin. Donc oui, il y a une réelle stratégie à mettre en place pour faire un effort de ce type.
En tout cas, oui, parce que en plus gagner 2 fois le maillot champion du monde d'affilée, c'est quelque chose quand même qui est pas commun, vraiment très rare. La question que j'avais, c'était est-ce qu'il, alors j'en ai deux en fait. Bon, est-ce que ils peuvent avoir certains des régimes alimentaires type céto, vegan, végétarien ou pas, ou est-ce que franchement c'est pas jouable?
Si, c'est jouable. Nous concrètement, on a un coureur qui a de la maladie cœliaque. Donc c'est une maladie au niveau digestif qui va empêcher de manger notamment du gluten. Donc c'est un coureur qui est sans gluten, vraiment strict, et sans produits laitiers. Donc on l'avait avec nous sur le Tour de France, donc c'était un bon challenge aussi pour nous pour faire des recettes qui lui convenaient. Donc voilà, on a dû utiliser des farines différentes, des farines de châtaigne, de riz, de sarrasin, etc. Et pareil sur les produits laitiers, ben, avoir des équivalents qui vont être une source de protéines efficaces, parce que souvent les produits laitiers, on en parle souvent au niveau santé, etc. Concrètement, il y a peu d'intérêt, mais c'est pas prouvé qu'il y a un besoin nécessaire de manger autant de produits laitiers que ce qui est recommandé. Par contre, c'est quand même une source facile de protéines, notamment en récupération. Donc oui, on a dû trouver plein de subterfuges ou d'alternatives pour combler ces besoins, malgré ces restrictions alimentaires. Après, on n'en a pas dans l'équipe, mais il y a des équipes professionnelles qui ont des athlètes qui sont végétaliens. Donc là aussi, c'est hyper important. Donc on aura de la facilité à avoir suffisamment de glucides dans leur assiette. Pour autant, au niveau des protéines, c'est possible, mais il faudra quand même l'anticiper et travailler des recettes spécifiques. Et puis c'est vrai que sur l'aspect digestif, ingurgiter autant de céréales complètes, de légumineuses, etc., c'est pas la chose la plus simple. Donc il faut trouver le juste milieu.
Ouais, parce que c'est ça, tu me disais tout à l'heure, il faut éviter les résidus, les fibres, etc. Mais quand t'es en végétalien, les résidus, les fibres, t'en as un paquet, quoi.
Ah, c'est exactement ça. Et puis après, sur le régime cétogène, bon, concrètement, c'est plus un mythe qui a été véhiculé. Hein. Je pense que c'était vraiment une stratégie de leur part, notamment de l'équipe Sky, d'enfoncer le clou sur ce type de régime. Mais après, ça fait partie de la stratégie au niveau de la communication, où si on peut tromper les adversaires sur certaines recherches scientifiques ou autres, faut pas s'en priver. Donc concrètement, le régime cétogène sur un sport comme le cyclisme sur route, concrètement, aucun intérêt. La question des cétones, c'est des corps cétoniques, c'est différent. Mais le régime cétogène sur ce type de sport, c'est contre-productif.
Ça me fait penser, est-ce qu'ils sont sujets, parce que ça c'est un vrai truc, sur les tendances, les modes, parce que bon, on parlait du cétogène, mais il y a des tendances. Mais tu vois, je me rappelle quand le film The Game Changer est sorti là, le documentaire, où d'un coup il y a eu tout le monde s'est mis à en parler, etc. On disait ouais, ils sont des super muscles, végétariens et tout. Et tes athlètes là, dans tous les sports confondus, ils voient bien ça passer là, ce truc là, et puis dans leur recherche de la victoire, il y a l'objet qui brille un peu peut-être, non?
Bah, c'est vrai que quand il y a eu ce reportage, il y a eu une petite vague de questionnements, en tout cas envers ces différents athlètes, où justement il y avait cette question de depuis petit, on insiste sur faut manger de la viande, faut manger des produits laitiers, faut manger des protéines, etc. Donc ils se sont posés des questions, c'était légitime. Après, c'est vrai que sur la véracité des propos de ce reportage, il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour autant, ça a quand même ouvert la discussion sur, sur le besoin de diversifier ton alimentation et puis de prendre en compte aussi tous ces enjeux environnementaux qui passent par ce qu'on mange. Donc, ça a ouvert la discussion. Après, concrètement, dans le haut niveau, en tout cas dans les athlètes que j'accompagne, il y a eu assez peu de changements à long terme. Même de végétariens, sans parler de végétaliens, hein, mais de végétariens qui se sont inscrits dans le moyen à long terme, il n'y en a quasiment pas. Mais par contre, nous, ça nous a permis d'enfoncer un peu plus le clou sur le fait que voilà, c'est nécessaire d'avoir des apports en protéines. Par contre, il y a aussi un besoin de les varier, au niveau animal, au niveau végétal, pour différents besoins, mais il y a un intérêt à le faire sur le plan de la performance et sur d'autres aspects également.
Je voudrais qu'on finisse quand même par dire un mot sur les femmes. Parce que, bien sûr, j'imagine, de toute façon, la gestion, elle est différente, parce que il y a déjà le fonctionnement avec les menstruations, etc. Il y a ça joue. Alors, je ne sais pas si tu suis des athlètes féminines.
Complètement. Ben, justement, je fais un peu de pub pour elles aussi, parce qu'elles font du bon boulot. Je pense que j'ai au moins 70, voire plutôt 80% de mes suivis qui sont des athlètes féminines. Et ça s'est aussi mis en place par le projet Empower, qui est basé à l'INSEP, justement sur les spécificités de l'athlète féminine. Donc que ça soit au niveau des menstruations, comme tu disais, mais simplement au niveau des variations hormonales qu'il peut y avoir dans un cycle menstruel. Et du coup, bah, comment adapter, que ça soit la charge d'entraînement et tout ce qui est relié à la récupération, donc notamment la nutrition. Et c'est vrai qu'avec avec les cyclistes qui étaient dans ce projet, mais il y a eu aussi des rameuses ou des skieuses, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'impacter, enfin, faire varier les besoins nutritionnels en fonction des phases du cycle menstruel. Donc, concrètement, même si c'est hyper individu dépendant, déjà en fonction du type de contraceptif, bien sûr, il y a aussi ce prérequis à ce qu'elles font leurs règles, parce que souvent, bah, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc étudier déjà ces spécificités et de manière individuelle comment ça peut varier. Et on se rend compte que souvent, il y a une phase du cycle qui est souvent entre le premier tiers et le deuxième tiers, qui n'est pas forcément optimale sur la performance. Donc, soit parce que ça impacte clairement la performance, soit parce que de manière subjective, notamment au niveau de certains symptômes, ça peut impacter ben, le ressenti de l'effort ou la perception, potentiellement des douleurs digestives, etc. Donc, on sait qu'on a une phase où potentiellement l'athlète doit être moins à même de s'entraîner. Donc là, on a deux types de situations, soit on réduit la charge, soit plus simple, et pour autant, on va l'augmenter dans des phases où l'athlète sera plus à même de s'entraîner de manière qualitative, ou alors on va optimiser les aspects nutritionnels et de récupération dans cette phase où potentiellement, ça peut être plus dur de s'entraîner de manière optimale. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre en place, et ça reste des conseils vraiment individuels par contre.
Et moi, il y en a une, parce que on parlait de vélo, mais quand même, Pauline Ferrand-Prévot, quand on regarde la saison avec ses 5 maillots de championne du monde, elle, on peut dire que l'optimisation, elle a géré cette année. Hein.
Ouais. Bah, de toute façon, quand il y a des athlètes qui durent comme ça dans le temps, c'est aussi qu'ils sont en millimètres sur tous leurs aspects de la vie quotidienne. Il n'y a pas que l'entraînement, mais voilà, je pense qu'elle a été à bonne école aussi en étant en couple avec un Julien Absalon qui est parfait sur plein d'aspects. De son quotidien, donc je pense que ça fait partie des athlètes quand ils sont performants et que ça dure tant de temps que ouais, y a pas de secret, hein. ils sont sérieux et ils font les choses à fond.
Pour des gens qui tu vois qui ont, alors ça peut être pour des parents, tu vois, qui ont des quand leurs jeunes là, leurs enfants qui veulent faire alors quel que soit le sport d'ailleurs, hein, mais c'est intéressant, c'est quoi le conseil? Et ça marche aussi pour les vieux qui veulent se mettre au vélo. C'est quoi le conseil, le truc? On dit, bon, tiens, moi, tu sais, je suis bien adepte du truc 80-20, quoi. De dire, avant d'aller dans le détail, on pose quand même les grandes bases, quoi. La grande base, c'est quoi? Le truc qu'il faut pas, faut dire, là, il y a ça, tu peux pas y couper, quoi.
Moi, je dirais que ce serait la régularité de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, plutôt que de faire, entre guillemets, d'être sérieux, un repas sur 10 et se dire, bah, c'est déjà ça en plus, c'est plutôt essayer d'inclure des bonnes habitudes au quotidien qui vont durer dans le temps. Parce que souvent, bah, c'est l'exemple qu'on fait des régimes. Hein. On est hyper sérieux pendant quelques mois et puis derrière, on perd tous les bénéfices, voire on reprend encore plus de poids que ce qui était fait avant. Donc, je dirais que cette culture, cette éducation nutritionnelle qu'on va pouvoir mettre en place dès le plus jeune âge, elle va être hyper importante. Et voilà, on parle souvent, que ça soit au niveau de la santé, mais même au niveau de la performance en fait de ce régime méditerranéen avec beaucoup de légumes, avec des protéines animales mais des protéines végétales, avec des graisses de qualité, etc. C'est une base qui a, c'est pas un secret de polichinelle, hein, mais c'est une base qui est hyper intéressante, qui est hyper bénéfique, et c'est ça qui va nous permettre après de d'encaisser les entraînements, de bien récupérer et de faire fonctionner. Tu parlais tout à l'heure des engrenages au niveau de la performance, mais c'est ça en fait qui met de l'huile dans les engrenages pour que la machine tourne à plein régime. Donc déjà, je dirais que le conseil numéro un, c'est la qualité de l'alimentation. Voilà, c'est des conseils tout bêtes, hein, mais manger des aliments qui sont... c'est Anthony Fardé, un chercheur qui utilise la règle des 3 V, vrai, varié, végétal. Mais en gros, avoir des aliments, on va cuisiner, des aliments bruts, des aliments de qualité, et avoir plus de végétal que de produits animaux par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est déjà beaucoup de choses bénéfiques. Et puis après, si on fait un focus sur l'aspect sportif, je dirais que c'est, on utilise un terme qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est en gros périodiser ses apports, notamment ceux qui sont glucidiques, où en fait, pendant l'effort, on a quand même des besoins en termes de glucides qui sont assez importants, tant sur le plan énergétique que sur le plan, à dire, au niveau de la... Tout le fonctionnement de l'organisme. Et on sait que les glucides, en fait, ils sont déjà protecteurs au niveau intestinal, au niveau du stress oxydatif, etc. Donc, c'est ça aussi qui va nous permettre de mieux récupérer derrière, de ne pas se blesser, de mieux récupérer, de ne pas tomber malade, etc. Donc, les glucides, pendant l'effort, ils sont importants, pour ne pas faire d'hypoglycémie, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans le fonctionnement de l'organisme, ils sont hyper importants. Donc, en fait, c'est avoir une base solide dans l'assiette et après avoir des apports supplémentaires en glucides en fonction de la charge de travail du jour.
Eh bien, écoute, c'est tellement précis, tu vois, c'est là, tout le monde va réécouter. Je mettrai bien vers l'épisode avec Anthony Fardé, parce que Anthony Fardé, je l'ai reçu. On a reçu aussi Vrob, qui a fait une BD, qui a adapté aussi des travaux d'Anthony Fardé, où c'est très très bien expliqué. Et je dois le dire, ça fait partie des épisodes qui ont été les plus écoutés. Vraiment, les deux épisodes qui ont été vraiment très écoutés, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Les 3 V, manger vrai, l'alimentation naturelle, etc. Et tous ces éléments-là. Mais qui montre, et tu l'as très bien montré, hein, très bien expliqué aussi, que on peut se baser sur ces produits naturels et aller vraiment dans le détail, dans peaufiner tous les éléments, hein, que bien sûr, toi t'as des grandes compétences. Il y a quand même un truc, tu sais, on finit toujours par une recette, et moi, tu sais, comme je suis très curieux, je me dis, c'est quoi toi la recette? T'as pas une recette un peu, déjà pour toi, un truc que t'aimes bien, tu vois, mais aussi un truc, tu vois, quand t'es avec les équipes comme ça, tu leur dis, tiens, ça, ce truc là je sais que ça leur fait du bien, c'est bon sur le plan mental, sur le plan de la recharge, sur le plan énergétique, etc.
Il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est vrai que tout à l'heure, on a beaucoup parlé du contenu de l'assiette, des quantités assez importantes, etc. Mais voilà, dans l'assiette, dans le plat principal, on va vraiment à l'essentiel sur l'aspect calorique, glucidique, protéique, etc. Par contre, en fait, on va essayer de compléter, que ce soit les entrées, les desserts, tous les condiments, etc., avec des aliments qualitatifs pour apporter des antioxydants, des vitamines, etc. Et souvent, un truc qui plaît bien et puis qui est aussi intéressant, c'est je fais ma pâte à tartiner maison. C'est hyper rapide, où en gros, je prends la purée de noisettes, je prends du miel, donc je crois que c'est aussi votre spécialité, donc un miel plutôt liquide, du cacao 100%, donc hyper riche en antioxydants, et un peu d'huile de noix. Donc je mélange tout ça, un peu de fleur de sel, et je mélange vraiment ça à la cuillère, donc en 2 minutes, c'est fait. Donc la recette, en gros, c'est 250 grammes de purée de noisettes. Donc c'est classiquement des noisettes qui sont mixées jusqu'à donner une purée, comme le beurre de cacahuète, par exemple. Après, je mets 12 grammes de cacao, 20 grammes d'huile de noix, un peu de fleur de sel, et après le miel liquide, ou sirop d'agave ou autre, peu importe, mais selon le goût sucré que vous voulez obtenir. Donc ça peut varier entre 20 et 50 grammes. Tout dépend de si vous aimez ou pas le chocolat noir et la teneur en sucre que vous voulez. Mais voilà, c'est simple, rapide et c'est hyper intéressant sur le plan nutritionnel également.
Et bien plus équilibré qu'une marque qui commence par un N et finit par un A. Alors, j'allais te dire, tu sais, j'ai une question subsidiaire parce que moi, je suis un amoureux de la purée cacahuète. Si je mets de la purée cacahuète à la place de la purée de noisette, est-ce que finalement, sur les apports, c'est moins bon?
C'est un peu moins bon si on parle des graisses notamment, sur des acides gras saturés sur la cacahuète, et plus sur des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés sur la noisette. Après, noisette, c'est vraiment comme on dit, un super aliment, hein, sur le plan des fibres, sur le plan des polyphénols, etc. Donc, c'est vrai que la noisette, je mettrais la palme d'or par rapport à la cacahuète. Mais bon, après, la cacahuète a aussi des intérêts. Donc, si on arrive à varier avec ça, la purée d'amande, et puis on peut varier les recettes de manière assez infinie. Mmh. Donc, pourquoi pas de temps en temps, hein, ça c'est sûr.
Ouais. Et puis, disons-le, hein, c'est que ces purées d'oléagineux, elles ont une quantité de protéines par rapport au poids, et on en parlait tout à l'heure, hein. C'est quand même des aliments qui ont cette richesse-là, où on peut en... Il y a vraiment, on est à 23%, je crois, hein, sur la cacahuète, des choses comme ça. Hein.
Ouais. Bah, quasiment équivalent à une protéine animale. Après, bah, y a cette question des acides aminés essentiels à l'intérieur, mais en termes quantitatifs, c'est hyper intéressant.
Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie parce que c'est un épisode qui était super complet. On a pris plein de trucs. Moi, j'ai hâte qu'on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines pour l'épisode sur l'aliment, les TCA, les trucs comme ça, sur les comportements alimentaires parce que c'est un vrai sujet. On n'a pas trop parlé aujourd'hui. On parlait un petit peu d'épuisement. On a parlé un petit peu chez les femmes d'aménorrhée. C'est des sujets. Je le dis parce que dans le prochain épisode, on en reparlera avec une invitée qui a elle aussi connu l'aménorrhée. Et puis, je suis en train de préparer d'autres épisodes avec, chez les hommes, hein, parce que j'imagine que dans les cyclistes que tu as suivis, le fameux Redes, on n'en parle pas beaucoup, mais il doit y avoir de l'épuisement qui doit arriver aussi. Donc on en parlera la prochaine fois. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Si on veut te suivre, tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Eh ben, je suis de moins en moins actif quand même sur Instagram.
Bon, c'est ce que j'ai cru voir, oui. Ouais,
je crois que les dernières photos, ça date des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, voilà, ça remonte déjà. Mais, sur Instagram, donc c'est Valentin Lax, L-A-X, tiré du bas nutrition. Et puis sinon, j'essaye de plus en plus de mettre quelques posts sur LinkedIn, donc des posts plus, scientifiques. Mais voilà, c'est vraiment retranscrire aussi mes expériences d'accompagnement d'athlètes ou d'équipes. Donc c'est du concret et puis ça brise un peu la barrière entre le ce haut niveau et monsieur madame tout le monde, donc j'essaye de vulgariser un peu ce que je fais et voilà. Donc non, c'est principalement les deux réseaux sociaux où j'essaye de poster un peu régulièrement. C'est vrai que c'est pas ma tasse de thé non plus, je suis pas un grand communicant, on va dire.
Ouais, et puis tu sais quoi, je mettrai un petit lien vers le livre Devenir triathlète dans lequel tu es intervenu, parce que notamment l'ami Hermano là qui est dans la team avec leur podcast, etc. C'est un bon pote, on a fait un swimrun ensemble et on est souvent ensemble à discuter, on a fait des podcasts, des émissions ensemble et tout, et je mettrai un lien vers le livre qui est chez Exuvie, qui est une très bonne maison d'édition, et bien sûr vous êtes je sais pas combien vous étiez, 7-8 là-dedans à participer sur tout l'aspect triathlon, sur comment est-ce que tout ça est optimisé. Et c'est un très bel ouvrage, donc je mettrai un petit lien pour ceux qui sont intéressés et qui ne le connaissent pas encore. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent.
Ouais, et puis on est en train de réfléchir aussi à comment accompagner un peu plus les athlètes, les sportifs de tous les jours sur leur quotidien, sur la partie nutrition et entraînement. Donc suivez tout ça donc sur le site OANA ou Devenir Triathlète. Vous trouverez pas mal d'informations et j'espère que ça vous plaira.
Voilà, c'était la petite clin d'œil, tu vois, en cross promo pour le... parce que en plus je les ai reçus et puis je suis passé sur le podcast. Donc voilà. Et ben écoute, sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis nous, entre-temps, il y aura d'autres invités, hein, on parlera d'autres sujets, mais on va je peux le dire parce que la prochaine invitée, on parlera justement de ces sujets-là autour de l'aménorrhée parce que c'est vraiment un sujet important. On avait déjà beaucoup parlé, l'anorexie, etc. Mais c'est vraiment des sujets très importants et on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Et puis j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit ah bah tiens, tu connais telle personne ou t'as peut-être croisé telle personne, et ben c'est ce qu'elle a eu. Tiens, moi j'ai été concerné, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets. Et tu disais hein, quand on consomme autant de calories et quand on en dépense surtout autant. Et qu'on a ces déséquilibres, c'est vraiment des sujets qui deviennent très, 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 très importants. Je te remercie beaucoup, Valentin.
Merci, Bertrand. Et à tout bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.